Dans une forêt près de Bure, il y a les restes d'un aspirant officier de l'armée suisse, déchiqueté par une grenade. Dans une maison abandonnée à Porrentruy, il y a le cadavre d'un gendarme, criblé de balles. Dans une voiture à Mulhouse, il y a le corps sans vie d'un industriel allemand, enlevé et exécuté. Dans un ravin, au bord d'une autoroute en Bourgogne, il y a un restaurateur à Joulot. Il est mort. Une balle dans la tête.
Crime suisse.
Bonjour, je suis Antoine Drou. D'habitude, dans Crime suisse, je vous raconte à chaque fois une seule affaire criminelle, une seule histoire de violence, de mort et de sang qui s'est passée chez nous, dans cette Suisse d'apparence si propre en ordre, si bien rangée. Mais aujourd'hui, pour ce 11e épisode, il sera question de plusieurs dossiers différents. Des morts violentes distinctes qui sont survenues dans une période importante de l'histoire suisse. En 1977 et 1978, alors qu'un nouveau canton s'apprête à voir le jour, le Jura. Au fil des ans, certains ont vu des liens entre ces affaires, mais sans que jamais rien ne soit vraiment établi. Crime suisse, épisode 11, grenade, coup de feu et terroriste. Vendredi 16 septembre 1977, nous sommes à Bure, au nord-ouest de la Suisse, en terre bernoise. Oui, bernoise. La votation fédérale qui doit valider la création du nouveau canton du Jura n'est prévue qu'une année plus tard. Ce devrait être une formalité, en tout cas selon les autorités concernées. Il est 19h40 et un aspirant officier quitte la place d'armes pour une course d'orientation. L'homme qui s'élance s'appelle Rudolf Flückiger. On le surnomme Rudi et il porte le dossard 84. Il vient d'avoir 21 ans. C'est le cadet d'une famille de paysans du Mittelland bernois. Il a trois grandes sœurs. La carrure du militaire est sportive. Ses cheveux sont bruns et ses yeux sont bleus. Il est vêtu d'une salopette d'entraînement et porte aux pieds les chaussures de marche réglementaires, en cuir épais. Son pistolet de service est dans un étui, à sa ceinture. Dans sa sacoche militaire, il y a tout le nécessaire pour la course. C'est une course au score, l'une des catégories les plus difficiles. Plus les postes sont loin, plus ils valent des points. Et l'aspirant en veut le plus possible des points. Rudolf Flückiger fait partie des troupes cyclistes et il se réjouit de passer enfin officier d'ici quelques semaines. Basé à Thun, sa troupe est venue à la place d'armes de Bure pour s'entraîner avec les grenadiers de char. La place d'armes de Bure. Inaugurée en 1968, elle peut accueillir plus d'un millier de militaires. Le terrain est immense. Il s'étend sur 1000 hectares. Il y a des pistes bétonnées, des terrains d'entraînement et de la forêt. Aujourd'hui, en 2024, après plus d'un demi-siècle d'existence, la place d'armes de Bure est devenue la deuxième plus grande installation de ce type en Suisse. Un des piliers centraux de la formation des troupes mécanisées, selon le commandement de l'armée suisse. Mais d'après les témoignages, à l'époque, l'immense terrain de plus de 600 hectares qui entoure les casernes est surtout un no man's land, une zone de non-droit où se croisent trafiquants et braconniers. C'est pratique, ici, pour traverser la frontière avec la France sans être vu. L'armée ne fait pas la police, et ni la police, ni les douaniers ne se risquent trop sur le terrain de l'armée. On est tranquille. Quand la course d'orientation se termine à 23h, Rudolf Flückiger manque à l'appel. Quelques recherches sont effectuées alentour, sans succès. La nuit passe. À 5h du matin, 140 aspirants officiers se lancent à la recherche du disparu. À midi, on mobilise 450 soldats d'une école de recrues pour battre la campagne. Deux hélicoptères de l'armée survolent la zone. La police bernoise et la police française sont aussi alertées. Les douaniers des deux pays se joignent encore aux recherches, ainsi que 7 chiens de Porrentruy. La famille du militaire disparu est informée. Le père et l'une des 3 sœurs se rendent sur place. Ils prennent un pull avec eux. Rudy, leur Rodolphe, doit avoir tellement froid dehors. Pendant des jours, les recherches se poursuivent, à grande échelle, dans les champs, dans les forêts. On sonde les gouffres, les cavernes et les empesieux, autant de cavités naturelles nombreuses dans la région. À la caserne, les bacs d'entraînement remplis d'eau pour les blindés sont vidés. Rien. La nouvelle de la disparition est publiée dans les journaux, diffusée à la télévision, qui filme des soldats en train d'avancer en randonnion dans la nature, cherchant des indices au sol. Six jours après la disparition de Rudolf Flückiger, le journal L'Impartial reçoit une lettre anonyme. Elle est transmise directement à la justice, sans être publiée. La lettre explique que ce sont des membres du groupe Bélier qui ont capturé l'aspirant officier. Il est écrit que les pro-jurassiens voulaient faire une action spectaculaire, lâcher un Fritz tout nu, enduit de miel, collé de plumes, devant le palais fédéral à Berne. Il est écrit dans la lettre que l'enlèvement aurait mal tourné et que le militaire serait mort étouffé dans le coffre d'une voiture. Les kidnappeurs se seraient ensuite débarrassés du cadavre. Le groupe Bélier, c'est ce groupe de jeunes militants qui luttent pour l'indépendance du Jura. Ils se présentent volontiers comme des rebelles qui veulent le Jura libre et autonome. Ils sont d'ailleurs en contact avec d'autres séparatistes, les Corses, les Basques ou les Québécois. Les Béliers, ce sont ces mecs-là qui goudronnent les rails du tram en vieille ville de Berne. Ce sont ces mecs-là qui occupent un poste de police et même une ambassade. L'ambassade de Suisse, à Bruxelles, le 3 août 1973 pour être précis. Ce jour-là, il y en a même un qui passe à la radio de Bélier. Archive RTS.
Allô l'ambassade de Suisse ?
Oui, c'est la radio suisse romande. Qui est à l'appareil ?
Un séparatiste jurassien.
Oui, est-ce qu'on ose vous demander quelques explications ?
Le groupe Bélier a occupé l'ambassade de Suisse à 11h ce matin et les fonctionnaires sont sortis et nous resterons jusqu'à nouvel avis.
Ceci dans quel but ?
Pour manifester notre séparation au canton de Berne.
Vous êtes barricadé dans l'ambassade ?
Nous sommes barricadés.
Et vous attendez à une intervention de la police ?
De toute façon, pour que la police intervienne, il faut qu'elle ait l'accord du gouvernement suisse.
Vendredi 16 septembre 1977. Nous sommes à Grandfontaine, pas loin de Bure, au nord-ouest de la Suisse, en terre bernoise. Alors que Rudolf Flückiger s'élance dans sa course d'orientation, une manifestation se déroule ici, à une dizaine de kilomètres des casernes. Il y a bien quelques membres du Bélier sur place, mais ce n'est pas le groupe séparatiste qui manifeste. C'est un collectif baptisé « Militants jurassiens ». Ils sont environ 80 et ils protestent contre la prolifération des résidences secondaires. Ils viennent d'Ajoie, bien sûr, mais aussi du Clos du Doubs, du Valterbie, des Franches-Montagnes. Et ils en ont tous ras-le-bol des envahisseurs. 60 maisons de vacances à Grandfontaine, sur les 160 bâtisses que compte la localité, c'est beaucoup trop à leurs yeux. Dans une ambiance plutôt bon enfant, ils ont érigé un barrage avec des billes de bois et des fils barbelés pour bloquer la route. La police cantonale bernoise est sur place. 2 appointés relèvent les numéros d'immatriculation des véhicules. Il note les noms des militants qu'il reconnaît. Plus loin, des Balois s'inquiètent auprès de leur épicier au village. « On ne peut plus aller chez nous !» Le commerçant leur fait faire un détour en voiture, puis redescend via le barrage, où il se fait gentiment rabrouer par des manifestants. La soirée passe. On boit des verres autour du feu. On va se réchauffer dans les bistrots. Par exemple, au Café de l'Aigle. L'établissement est tenu par un ancien agriculteur de Failly qui s'appelle Alfred Amé. Il ne passe pas inaperçu dans la région, au volant de sa voiture américaine. Il conduit une Ford Mustang rouge. À un peu plus de 40 ans, Alfred Amé a racheté le Café de l'Aigle il y a 3 ou 4 ans, on ne sait déjà plus très bien. Il a payé cash, sans discuter. D'ailleurs, il ne discute pas beaucoup, Alfred Amé. Les villageois vont assez peu dans son bistrot dancing. L'établissement est plutôt fréquenté par une clientèle de passage, française notamment. Le restaurateur est aussi connu des douaniers pour des histoires de trafic de viande par-dessus la frontière, toute proche. Son cadavre sera retrouvé dans quelques mois, au bord d'une autoroute en Bourgogne. Une balle dans la tête, sa Mustang rouge parquée un peu plus loin. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, nous sommes au lendemain de la manifestation à Grandfontaine. Les militants organisent une conférence de presse. Ils dénoncent la spéculation immobilière qui ne profiterait qu'à quelques citoyens privilégiés au détriment des jeunes qui ne trouvent plus à se loger. Ils déplorent aussi la disparition de terres agricoles au profit de ces bidonvilles de luxe et de ces chalets d'un goût douteux. Plus tard ce jour-là, deux gendarmes de Porrentruy sont sur place. Il y a le sergent Maître et le caporal Hussler. Ils constatent qu'il n'y a plus de barrage et que les militants se sont dispersés. Il faut savoir qu'à l'époque, cette manifestation de Grandfontaine s'inscrit dans un contexte tendu. Cela fait tant d'années que l'on se bat dans la région pour la création d'un nouveau canton. Cela fait tant d'années que les séparatistes donnent de la voix.
1er août 1968, à Bure, la fête nationale est le prétexte d'un affrontement entre séparatistes et anti-séparatistes. Armé de scies électriques, le groupe Bélier déclenche un beau vacarme pour empêcher les orateurs adverses de parler. La petite guerre des invectives et des menaces se poursuivra toute la soirée. La nouvelle éclate enfin. Depuis le début de l'été, des troupes ont été mises de piquet dans le Jura pour protéger les installations militaires. La nouvelle est accueillie avec stupeur et avec gêne. Deux mois après l'invasion de Prague, les séparatistes comparent le Jura à la Tchécoslovaquie. Devant la vague de protestations qui s'élève dans toute la Suisse, le Conseil fédéral rapporte les mesures militaires à la mi-novembre. Un mois plus tard, nouveau coup du Bélier. Le jour de l'élection du Conseil fédéral, une trentaine de jeunes séparatistes font irruption au Parlement. Plusieurs conseillers nationaux prêtent main forte aux huissiers pour les expulser. L'incident est retransmis par la télévision tessinoise.
Je rappelle que la séance est suspendue.
Bien des années plus tard, au moment de la manifestation à Grandfontaine, en septembre 1977, le processus de création du canton du Jura est enfin à bout touchant. Une votation fédérale est prévue l'année suivante. Toute la Suisse, population et canton, sera appelé à finaliser cette longue démarche vers l'indépendance lancée à la fin des années 40. L'enjeu est de taille et les autorités sont nerveuses. Qu'il s'agisse du canton de Berne, du Rassemblement jurassien ou de la Confédération, tout le monde retient son souffle. Il faut que cette dernière ligne droite se passe bien jusqu'à la votation de 78 pour que tout le monde puisse finalement panser ses plaies. Parce qu'il y en a eu des plaies ouvertes ces dernières décennies. Il y a eu les incendies de fermes dans les Franches-Montagnes, l'explosion d'une banque à Delémont, tous les attentats revendiqués par le FLJ, le Front de Libération du Jura. Il y a eu des échanges de coups de feu, parfois entre voisins. Il y a eu les actions du groupe Bélier, séparatiste, et celles du groupe Sanglier, anti-séparatiste. Il y a eu les bagarres, les manifestations, les grenadiers, les gaz lacrymogènes. Parfois même, il y a eu des incidents à l'étranger et hors du champ politique. En 1976, par exemple, le capitaine à Joulot, Joseph Juillard, se fait exclure de l'armée suisse parce qu'une des grenades de son unité a explosé en France. Cela fait plusieurs années que celui qu'on surnomme le Merle Blanc ou Babar trafique du matériel de guerre suisse dans l'Hérault, dans le Doubs, notamment des grenades à manche dont les numéros de série sont limés. Bref, en septembre 77, il reste encore une année avant le scrutin fédéral et tout le monde, ou presque, espère arriver à bon port avec le moins de soubresauts possible. Octobre 1977. Deux semaines après sa disparition, l'aspirant officier Rudolf Flückiger reste introuvable, malgré d'intenses recherches. 5000 hectares ont été passés au peigne fin, en Suisse et en France. Dans sa ferme du Mittelland bernois, la famille Flückiger se ronge les sangs. Elle reçoit beaucoup de visites,